Page après page, votre rendez-vous littéraire. Je tu lis sur Radio Côte-Varoise avec la librairie Olbia à Hyères.
Et un nouveau rendez-vous, comme chaque semaine, sur Radio Côte-Varoise, le rendez-vous Je tu lis avec Jessica Lecour, librairie Olbia, rue Soldat Belon à Hyères. Bonjour Jessica.
Bonjour François.
Comment ça va?
Je vais très bien.
Bon.
Et toi?
Ah bah,
très
bien.
T'as sorti ta petite laine?
Eh ben oui, il faut, hein, parce que ça pique un peu le matin.
Oui.
Hein. Voilà. Bon, on aborde aussi une saison où il fait bon lire, hein, justement,
oh oui,
quand il fait...
Bientôt, peut-être les feux de cheminée, pour
voilà,
ceux qui en sont équipés,
ou alors près, à la maison,
près du poêle.
Avec un bon livre.
Oui.
On va commencer avec un roman, Jessica.
On va commencer avec un roman d'une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, Les Avrils.
Uh-huh.
On en avait parlé ensemble l'an dernier, notamment pour La Petite Bonne, hein, de
ouais,
Bérénice Pichat,
ouais,
un ouvrage paru à la rentrée également l'année dernière, que moi j'avais adoré, que j'avais soutenu et qui a fait son petit bonhomme de chemin après, puisqu'elle a eu le prix des libraires. Voilà, elle a été encensée de toutes parts et ça fait plaisir aussi de soutenir ces petites maisons. Là, Les Avrils, cette rentrée littéraire, Le désir dans la cage d'Alice Avens. Alice Avens, elle est peu connue, on va dire, du grand public, même si elle a déjà écrit, mais elle est surtout auteur-compositeur dans la musique. Et la musique, il en est question dans cet ouvrage, ouais, puisque elle évoque une compositrice française, Mélanie Bonis,
ouais,
qui est née en 1858, donc qui a été compositrice au temps du post-romantique. Elle a été contemporaine de Debussy, Camille Saint-Saëns, etc. Sauf que si je dois résumer son histoire, c'est une femme talentueuse qui est née au mauvais moment.
Ah.
Puisque à l'époque, donc elle naît, comme je l'ai dit, donc en 1858, dans une modeste famille bourgeoise parisienne. Ses parents voient en elle la possibilité de la marier à un bon parti, comme ils le feront avec sa sœur aînée. Sauf que elle aime la musique. Elle apprend la musique en autodidacte. Et comme elle est talentueuse, elle est repérée pour intégrer le conservatoire, ce qui déplaît fortement à ses parents. Mais sous la pression en fait de professeurs de l'époque, elle finit par intégrer le conservatoire, faire des études et être promu un bel avenir, sauf que sa mère n'en démord pas. Non, elle ne fera pas de musique, elle ne sera pas célèbre dans le monde de la musique, elle va épouser un bon parti et on n'en parle plus.
D'accord.
Donc, c'est ce qui va se passer. Hein. Elle va être frustrée, notre Mélanie Bonis, mais elle va tout de même accepter l'ordre de ses parents. Elle va se marier à Albert Domange, un riche industriel, deux fois veuf, père déjà de grands enfants, mais qui est gentil avec elle, qui va lui fournir quand même un piano, et du coup elle va bon an mal an se dire c'est pas grave, tant que je peux quand même être en lien avec la musique, je vais faire contre fortune bon cœur. Et elle va continuer à jouer et à nouveau être repérée et à pouvoir composer et être édité.
D'accord.
Elle va le faire sous le nom de Mel Bonis. Et aujourd'hui, si vous tapez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est romancé, mais c'est quand même un personnage qui a existé.
D'accord.
Notamment, je t'invite, mon cher François, à écouter un morceau de composition qui s'appelle « Gai printemps ». C'est juste magnifique, c'est doux, c'est somptueux, et donc c'est de Mel Bonis. Pourquoi Mel Bonis? Parce que le fait de s'appeler Mel Bonis, ça lui permettait de brouiller les cartes et que les gens imaginent que c'était un homme.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'à une époque, elle va être éditée, elle va être jouée dans des grandes salles comme la salle Pleyel, parce que le grand public et les professionnels vont penser que c'est un homme.
Ok.
Jusqu'à ce qu'il soit découvert que c'est une femme. Donc elle va avoir quand même un certain succès. À mon avis, pas au niveau de son talent.
Ouais.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, son histoire revient sur le devant de la scène, hein, comme ça arrive. Hein, parfois, tu sais, 40 ans, 50 ans après, bon, elle l'a bien plus tard, parce qu'elle est décédée en 1937.
Ouais.
Mais n'empêche que il y a des personnes comme ça, avec du talent, qui sont découvertes bien plus tard. On l'a vu déjà dans la... Mais oui.
C'est
on
fou.
L'a déjà vu dans le monde de la peinture, on l'a vu dans le monde de l'écriture aussi. Bon, elle, c'est dans le monde de la musique.
Ouais.
Moi, j'ai fait des petites recherches. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est beaucoup plus jouée aujourd'hui à l'étranger qu'en France. Donc c'est quand même incroyable parce qu'on avait une compositrice femme exceptionnelle, je le rappelle quand même, contemporaine de Debussy et de Saint-Saëns, mais finalement c'est eux qui ont eu
Gabriel
la
Fauré
part belle.
Aussi, ouais.
Oui. Et aujourd'hui, c'est les pays étrangers et les musiciens et compositeurs étrangers qui la mettent plus en avant que nous, Français. Mmh. Donc il y a quelques dates là, si vous avez envie de découvrir son œuvre prochainement. Mais franchement, en attendant, je vous invite à découvrir ce livre. En plus, il y a une particularité, que j'ai beaucoup aimée. C'est que Alice Havens l'a écrit à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, on s'adresse à Mel Bonis. En fait, on lui parle à la deuxième personne. Tu as vécu ça. Et c'est un peu déroutant au départ.
Ouais.
Et en fait, c'est hyper agréable.
D'accord.
Parce que tout de suite, ça crée une proximité avec Mel Bonis qui est très, très agréable.
Ce qui est génial également, c'est qu'une autrice comme Alice Havens se dit, tiens, je vais faire un truc sur Mel Bonis. Mm. Mais il faut la connaître déjà, il faut aller à la recherche, il faut se documenter.
Tout à fait. Et en fait, c'est son parcours à elle de femme musicienne, si tu veux, qui a fait qu'elle avait envie de la remettre en avant et de démontrer aussi que, il y avait du talent, même chez les femmes.
oui, évidemment, ça fait pas l'ombre d'un doute.
Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, finalement, entre guillemets, dans les arts, on se pose moins la question.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, peu importe le sexe, peu importe le genre,
bien sûr.
Tu as du talent, on parle de toi.
Exactement.
Voilà. Et à cette époque-là,
c'était plus compliqué.
Il y avait, d'autres destinées avant d'être talentueux et public.
Le désir dans la cage d'Alice Havens chez Avril, donc c'est un roman.
Hein. Oui, tout
très
à
bien.
Fait.
Rayon jeunesse.
Oui.
Alors là, rigolo aussi.
Alors là, je vous ai dégoté un documentaire qui vient d'arriver que j'aime beaucoup. Bon, chez un éditeur jeunesse que j'aime également qui s'appelle Faidon Jeunesse.
Mm-hmm.
C'est un documentaire qui s'appelle Habille-toi.
Ouais.
On va parcourir 10 époques. Donc on part de l'Antiquité, de la Grèce antique, pour aller jusqu'à l'indépendance du Ghana en 1957, je ne dis pas de bêtises.
Oui.
On va parcourir donc, 1957, donc on va parcourir le règne d'Elisabeth Ier en Angleterre, on va aller dans le monde des Incas, on va aller également dans les années folles, etc. Et en fait, à chaque époque, est présentée la façon dont s'habillaient les gens à cette époque-là.
D'accord.
Les enfants, les personnages publics, les papas, les mamans, voilà. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, il y a une double page pour présenter l'époque. Par exemple, là, je tombe sur les années folles.
Mmh.
Et ensuite, se glisse une fausse idée, en fait, dans la double page et suit une seconde double page où on donne des explications sur chaque vêtement et on dit aussi pourquoi, ils portaient pas. Par exemple, si je dis les enfants dans les années folles portaient, des cols Claudine, des fermetures éclair, mais pas de pantalon.
Ouais, c'est des culottes courtes en fait.
Voilà, c'était plutôt effectivement des petits bermudas avec des chaussettes remontées jusqu'aux genoux.
Mm-hmm.
Mais les pantalons...
Comme Tintin.
les pantalons n'étaient pas de rigueur.
Ouais, ouais.
C'est très intéressant, tu vois, on va aussi à un moment dans l'Empire Inca, donc entre 1438 et 1532.
Mm-hmm.
Et figure-toi que ce qui était le sapo Inca, c'est-à-dire on va dire le roi chez les Incas, il ne fallait jamais le regarder dans les yeux. Sinon, ça te portait malheur.
Ah ouais.
Et lui portait des vêtements ornés de pierres précieuses, de motifs, etc., qu'il changeait tous les jours et qu'il brûlait. Donc, il portait sa tenue une journée.
D'accord.
C'était brûlé.
Ouais.
Et il fallait lui en confectionner de nouvelles. Donc, autant te dire qu'il y avait du boulot pour les couturières.
Donc, la fast fashion, ça date pas d'aujourd'hui.
oui, c'est vrai, c'est vrai. Autre anecdote très intéressante et véridique, les geishas.
Oui.
Les geishas avaient les dents noires. Elles se teignaient les dents en noir.
D'accord.
Signe de beauté. Parce que ça rappelait la laque.
Ouais.
Et donc, c'était un mélange de fer, de limaille de fer et de vinaigre qu'elle se posait sur les dents pour les noircir.
T'imagines? Bonjour l'émail.
Oh, yeah, yeah.
Bonjour l'émail.
D'ailleurs, c'est interdit maintenant. Hein, c'est interdit.
Ouais, ouais.
Mais voilà, donc c'est un ouvrage très intéressant. 10 époques donc parcourues pour s'intéresser aux vêtements. C'est vrai que le vêtement, comme tu le disais très justement, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que, alors là, on est parti, nous, dans une consommation
outrance.
Et même maintenant, le recyclage, tous ceux qui récoltent les vêtements ne peuvent même plus suivre, tellement nous consommons dans le monde entier du vêtement.
puis l'état des rivières aussi.
Ah, hein, voilà, dans avec les pays, tout ce que ça implique en pollution,
catastrophique.
Exploitation quand même aussi d'une population qui a un niveau de vie beaucoup moins important que le nôtre et qui subit quand même cette consommation à outrance. Donc c'est très intéressant de revenir justement à l'histoire du vêtement et à la façon dont il était utilisé à l'époque, parce qu'il y avait aussi des choix de vêtements en fonction de qui on était ou de ce que l'on faisait.
Et ouais, bien
voilà.
Sûr.
Très très intéressant à partir de 7 ans, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et pour les plus grands aussi, ça peut être un bon support en famille, ça peut être un bon support aussi dans les activités à l'école, pourquoi pas.
Aussi, oui.
Voilà, habille-toi tout simplement chez Faidon.
Très bien. Eh bien, on note ces deux ouvrages, donc Roman et Rayon Jeunesse. Merci beaucoup, Jessica.
Merci,
des ateliers cette semaine.
Alors, les ateliers, ça y est, on a fait l'archéologie.
Oui.
Le mois prochain, on va être sur la nature et les traces d'animaux.
D'accord.
Le mois prochain, on rencontrera, donc au mois d'octobre aussi, on aura un atelier Halloween.
Oui,
parce que la fin du mois
arrive.
D'octobre, ça sera Halloween. Donc, renseignez-vous auprès de nous, effectivement, on vous parlera d'Halloween. Et alors, en plus, on a une joie, encore une fois, de recevoir un auteur qui est devenu aussi un ami de la librairie, Julien Sandrel.
Eh oui, le local de l'étape.
Le local de l'étape, ouais. Pour son roman donc, qui sort le 1er octobre chez HarperCollins, et qu'il viendra nous présenter le 25 octobre, le samedi 25 octobre, rencontre et dédicace. Donc voilà, profitez-en, Julien sera parmi nous, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
On aura l'occasion d'en reparler, évidemment.
Oui, tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Jessica, à la semaine prochaine.
François, à la semaine prochaine.